quand on a une OQTF, on peut ne, juste être discret, ne pas quitter le territoire, ne pas passer par les douanes et rester sur le territoire. Et en fait, on ne peut pas vraiment le faire appliquer, ou alors ce serait très très compliqué.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses sigles. Et aujourd'hui, avant toute chose, je tiens à dire merci à la France. Puisque voilà 25 ans maintenant, je sais c'est fou, vous pensiez que j'avais 25 ans, et non, voilà 25 ans que je suis sur le territoire français, et la France ne m'a toujours pas expulsé vers la Suisse. Chaque jour, sans lettre recommandée du ministère de l'Intérieur, est une victoire. Oui, aujourd'hui on va zoomer sur un mot, plutôt 4 lettres, que vous entendez toutes les demi-heures dans les médias, et même toutes les 5 minutes si vous êtes un téléspectateur de CNews. Ces 4 lettres, mères de toutes les polémiques, c'est bien sûr OQTF. Les fameuses obligations de quitter le territoire français, trop facilement délivrées selon la gauche, pas suffisamment exécutées selon Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef filloniste. Alors, comment fonctionnent vraiment les OQTF? Quels sont les profils de ceux qu'on somme de quitter le territoire? Quels sont leurs recours? Pourquoi si peu d'OQTF donnent lieu à une véritable expulsion? En tout cas, le débat est explosif au sein de chaque famille. Chaque dîner peut vite virer au drame. Ici même, tout à l'heure, Quentin et Cyril ont failli en venir aux mains, Quentin traitant Cyril de xénophobe sans cœur, pendant que Cyril le qualifiait pour sa part de wokiste dégénéré. À un moment, j'ai vraiment cru qu'ils allaient se battre, mais heureusement, Quentin a été rattrapé par la lucidité.
Je sais pas ce qu'ils vont faire de te casser la gueule, tiens.
La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça.
Un face-à-face houleux qui s'est conclu par ces paroles fortes de Cyril. Si Retailleau démissionne, alors moi aussi. Ensuite, il a boudé en feuilletant son calendrier des vieilles dames toutes nues qu'il cache dans son tiroir. Zoom Zoom Zen, sous haute tension, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Didier Lesky.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Didier, vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, un organisme public chargé d'organiser l'accueil des migrants. Votre tract Gallimard s'intitule « Ce grand dérangement, l'immigration en face ». Il a été réédité en 2023, petit livre dans lequel vous battez en brèche pas mal de fantasmes sur l'immigration. On compte donc sur vous pour nous éclairer sur ces sujets et en particulier celui qui nous intéresse aujourd'hui, ces fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire. Juste le temps de vous présenter mes précieux collègues, deux humanistes qui résistent courageusement à la férule totalitaire de Cyril Lacarrière, leur supérieure hiérarchie qui conditionne sournoisement leur reconduction à l'antenne la saison prochaine, ouais, à une adhésion immédiate au Parti des Républicains. Pour l'instant, ils résistent, mais jusqu'à quand? Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Ça va attendre longtemps.
Ouais. Ça va attendre longtemps.
Très, très longtemps.
Manon, chaque après-midi, vous nous proposez d'aller plus loin sur notre sujet avec l'autre personne à suivre.
Oui, un acteur césarisé qui était sous le coup d'une OQTF, mais qui a réussi à obtenir un titre de séjour pour un an. Je vous raconte son parcours hors du commun. Fin d'émission.
Celui dont la maman est morte en 2019, il faut le rappeler, pour certains
exactement,
qui n'avaient pas vraiment noté cette information importante. Face à vous, Didier, il sera toujours du côté des déracinés, des opprimés. À chaque fois qu'il entend des débats stériles sur les OQTF avec ces politicards de droite qui s'indignent qu'on renvoie soi-disant pas suffisamment de gens dans leur pays d'origine, il soupire, coupe le son et puis il met Babacar. Ça le purifie. Quentin, chaque après-midi, avec ce goût de l'autre qui fait okay, votre singularité, surtout au sein de notre
vraiment
équipe, faut bien le dire, vous partez à la rencontre des gens pour les faire réagir à notre mot du jour. Là, j'imagine que OQTF, ça fait beaucoup, beaucoup réagir.
Ben oui, avec France Gall dans les oreilles, évidemment.
C'est votre passion pour la variété française.
J'adore. Mais c'est surtout une notion floue qui perturbe les échanges, l'aspect médiatique. Les débats à n'en plus finir, vous l'avez dit, sur les chaînes d'infos en continu, brouillent les échanges qu'on pourrait avoir calmement sur la question, même dans notre bureau. Et s'il s'agissait de se battre, sachez que je n'aurais jamais peur. Un micro-trottoir, tout chaud, c'est dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, il n'y a pas que les étrangers qui veulent venir chez nous, il y a parfois nous qui voulons venir chez les étrangers. Le Zoom Zoom Test sera consacré à l'immigration française dans le monde. Juste avant 17h, Camille Lorente, la Rital, comme l'appelle Cyril quand il est de bonne humeur, la macaroni le reste du temps, nous rejoindra.
Non, ça va pas.
Mais d'abord, Didier Lesky, on a appris lundi soir, vous pouvez enlever la musique d'Indiana Jones, qui n'a plus de sens, on a appris lundi soir qu'Alger rejetait la liste d'une soixantaine d'Algériens que Bruno Retailleau voulait expulser. Est-ce que ça, c'est un camouflet pour notre ministre de l'Intérieur?
En tout cas, c'est une mauvaise manière vis-à-vis du gouvernement, puisqu'on est quand même dans une situation un peu étrange. Si vous voulez, on a intérêt à ce qu'il y ait des meilleurs rapports entre l'Algérie et la France. L'Algérie, c'est 250 000 visas accordés à des Algériens en 2024 pour venir en France. C'est près de 30 000 nouveaux nouvelle personne ayant un titre de séjour de longue durée, c'est-à-dire à qui on a donné l'autorisation de s'installer en France. Et en même temps, malheureusement, l'Algérie, c'est aussi le pays que beaucoup de jeunes fuient. On a plus de 10 000 Algériens qui ont risqué leur vie pour traverser la Méditerranée du côté de l'Espagne pour venir en France. Et c'est vrai que si on veut rester un pays ouvert, si vous voulez, avec une régulation dans les deux sens, ça suppose que ceux qui n'ont pas un titre de séjour puissent être renvoyés dans leur pays. Et c'est comme ça que les choses se font, je dirais, à travers le monde.
Vous allez nous expliquer, je crois qu'il y a aussi une crispation vis-à-vis même de la personnalité, de la communication de Bruno Retailleau. C'est ça peut-être que l'Algérie a du mal à digérer ?
Alors, bien sûr, il y a une crispation, mais qui est liée aussi à, je dirais, à des événements récents, et en particulier à l'arrestation de Boualem Sansal, qui est pour nous, Français, qui sommes attachés, je dirais, à la littérature, aux intellectuels. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire de l'indépendance algérienne, il y a un moment très fort, qu'on a tous oublié peut-être, parce qu'on est jeune, en tout cas moi, peut-être un peu moins que vous, c'est le général de Gaulle et Jean-Paul Sartre. Hein. Jean-Paul Sartre, au moment de la guerre d'indépendance algérienne, appelle les jeunes Français à ne pas faire leur service militaire et à déserter. Voilà. Et puis il y a un ministre qui dit ben, il faut quand même poursuivre Jean-Paul Sartre. Et à ce moment-là, de Gaulle dit on n'emprisonne pas Voltaire. Voilà. Et d'une certaine manière, emprisonner Boualem Sansal parce qu'il a dit des choses qui ne plaisent pas, c'est un peu emprisonner Voltaire, si vous voulez.
On va en parler avec vous, vous allez tout nous expliquer sur les OQTF. Une citation pour continuer. « Si Retailleau démissionne, je claque madame moi aussi, vous n'aurez qu'à reprendre l'autre gauchiasse de Bruno Donnet. » Ainsi parlait Cyril Lacarrière cet après-midi en conférence de rédaction. Et même quand j'ai tenté un petit « Allez, one, two, three, vive à l'Algérie !» pour détendre l'atmosphère, ça n'a pas marché. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors vous avez enquêté néanmoins Cyril, racontez-nous les OQTF, d'où ça sort?
Eh bien mon bon Noël, vous serez ravi d'apprendre qu'avant qu'on vous oblige à quitter le territoire, on vous invitait à quitter le territoire.
Vous invitez toujours du reste.
Oui, vous avez toujours, mais ça a un peu évolué. Il y avait les invitations à quitter le territoire. En général, cette invitation polie était un acte administratif, conséquence directe d'un refus de demande de titre de séjour. Vous vouliez vivre en France, on vous disait non, du coup on vous invitait à quitter le pays, vous pouviez évidemment déjà faire des recours. Et puis, moins ça patoche sur la forme, il y avait l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, la PRF. Tout ça, c'était avant que Nicolas Sarkozy ne devienne le premier flic de France. Le 24 juillet 2006, il fait voter la loi relative à l'immigration et à l'intégration. Dans ce texte, le futur président Sarkozy fusionne l'IQTF, la RPF et même des arrêtés d'expulsion pour créer, roulement de tambour, l'OQTF.
Alors concrètement, qu'est-ce que prévoit cette mesure ?
Elle concerne les étrangers qui vivent en France depuis plus de 3 mois, qui se sont vus refuser un titre de séjour, qui sont en situation illégale ou qui présentent une menace pour l'ordre public. Quand une personne est visée par une OQTF, elle peut faire appel, mais elle a également 30 jours pour quitter le territoire national. La personne peut aussi être placée en centre de rétention administrative ou assignée à résidence. Alors pourquoi ces OQTF sont-elles devenues des sujets de débat politique ? Pourquoi ne sont-elles pas respectées ? Faut-il revenir sur cette loi de 2006 ? Qu'est-ce que ça dit de notre politique migratoire ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril Didier. Est-ce que ça paraît simple sur le papier, une OQTF ? Pourquoi c'est si compliqué apparemment à mettre en application ?
Alors, j'ai bien compris, vous aimiez beaucoup Nicolas Sarkozy, mais en réalité...
vous l'avez vite cerné.
Il n'a fait que transcrire des textes européens qui ont mis en place ces fameuses obligations de quitter le territoire avec cette idée que toute personne qui est sur le territoire de l'Union doit avoir une situation administrative claire. Soit elle a un titre de séjour et elle relève d'un titre de séjour, soit eh bien, elle doit être amenée à quitter le territoire. Et en réalité, comme vous l'avez dit, invité à quitter le territoire. C'est pour ça que, en plus de cette invitation à quitter le territoire, on lui propose ce qu'on appelle une aide au retour, c'est-à-dire on vous dit, on vous paye votre billet d'avion, on vous donne même de l'argent en disant, bah voilà, retournez chez vous puisque on vous s'autorise pas à rester. Voilà.
Combien on propose ?
Alors, ça dépend un peu des situations, mais ça peut aller jusqu'à 2500 euros.
Est-ce qu'il y a vraiment si peu d'OQTF qui sont exécutés ?
Il y en a peu au regard du nombre de ces obligations de quitter le territoire français, parce que c'est ça ce que ça veut dire au QTF. En plus, il y avait cette particularité qui a été changée en janvier 2024, c'est que cet OQTF n'était valable qu'un an. Voilà, c'est,
il ah fallait, oui, après, ça,
alors une fois qu'on dépassait l'an, il fallait la refaire, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, elles sont valables 3 ans, 140 000 OQTF par an à peu près, et puis 20 000, 22 000 retours, 23 000 parfois, 24 000. On voit bien que, éloignement comme on dit, on voit bien qu'il y a un décalage entre le nombre et le retour. Et puis comme vous avez parlé des Algériens, par exemple, en 2024, plus de 33 000 Algériens ont été... contrôler en situation irrégulière. Et contrôler en situation irrégulière, faites attention là encore, dans votre amour Nicolas Sarkozy, ce n'est pas illégal d'être en situation irrégulière, ce n'est pas un délit. Ouais. Voilà, et donc du coup, on ne peut pas être contrôlé parce qu'on vous soupçonne d'être en situation irrégulière. Ça veut dire que vous avez été contrôlé pour autre chose. Vous avez fait par exemple un excès de vitesse ou vous étiez dans un périmètre où il y a eu des contrôles. Et les Algériens, c'est 33 000 personnes en 2024 contrôlées en situation irrégulière pour moins de 3 000 personnes reconduites. Donc, si vous voulez, éloigné, pour le coup. Voilà, c'est ça l'écart, si vous voulez.
Est-ce que le spectre, il n'est pas un peu trop large? Parce que si je reprends la définition, ceux qui sont des étrangers qui vivent en France depuis plus de 3 mois, qui se sont vus refuser un titre de séjour, qui sont en situation illégale ou qui représentent une menace pour l'ordre public. Est-ce que ceux qu'on renvoie vraiment, de facto, sont ceux en priorité qui présentent une menace pour l'ordre public ou juste certains qui sont juste en situation irrégulière, en fait, qui ne présentent aucune menace? Alors, c'est juste qu'ils n'ont pas de titre de séjour.
Aujourd'hui, oui, on privilégie les consignes du ministère de l'Intérieur, de Gérald Darmanin. C'est de privilégier les sortants de prison, ceux qui ont commis des délits et qui...
Il y a une hiérarchisation quand même, quelque part.
On privilégie le départ de ceux qui ont rompu de manière explicite les règles de l'hospitalité. Voilà, commettre un délit, c'est rompre les règles de l'hospitalité. Et on peut les mettre dans un centre de rétention administrative où il n'y a que 2000 places. Et puis après, il y a un contrôle du juge et vous pouvez être amené à repartir. C'est vrai que la première nationalité qui repart, les premières, ouais, c'est la nationalité du Maghreb, ce qui correspond au fait que les Maghrébins sont la majorité des immigrants africains, du continent africain, qui sont aujourd'hui en France.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Pour nous éclairer sur le fonctionnement des fameuses OQTF, ce n'est pas n'importe qu'on reçoit aujourd'hui, puisque le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, Didier Lesqui, est avec nous. Didier, soyons très concrets, qui décide au fait d'une OQTF?
Ah ben c'est une décision administrative, c'est le préfet.
Le préfet,
voilà.
C'est lui qui décide.
Au cas par cas, du coup?
Oui, bien sûr, il y a à chaque fois un examen de la situation de la personne, et puis... voilà, elle a demandé un titre de séjour ou elle a été, par exemple, déboutée de sa demande d'asile. Et à ce moment-là, on lui signifie le fait qu'elle est invitée à quitter le territoire. Puisque je rappelle que dans l'obligation, il y a d'abord une invitation pendant 30 jours. Là encore, c'est une règle européenne. Il y a des pays, la directive européenne dit entre 7 jours et 30 jours. Nous, on a choisi 30 jours.
Mais du coup, ça veut dire que passé 30 jours, la personne est illégalement sur le territoire français?
Alors, passé 30 jours, si elle est contrôlée pour autre chose, eh bien, elle peut être amenée dans un centre de rétention administrative et on organise son départ.
Si elle est interpellée pour autre chose, mais on ne va pas aller la chercher pour rien, alors qu'elle a laissé filer le délai de 30 jours, on ne va pas aller chercher cette personne pour lui dire « dis donc,
on ne peut pas aller la chercher chez elle, par exemple, puisque c'est un domicile, et il faudrait une autorisation du juge pour rentrer dans un domicile. »
Ah d'accord.
Chaque préfecture délivre des OQTF? Oui. Il y a des préfectures plus que d'autres, où on sait si c'est sur tout le territoire français un peu pareil et équilibré?
Alors, le QTF, elle est corrélée à la présence dans un département donné. Et donc, bien évidemment, les OQTF sont d'abord en Île-de-France ou dans le Rhône, enfin dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire dans des départements où il y a une très forte immigration, parce que la particularité des personnes qui sont en situation irrégulière, c'est qu'elles sont très souvent là où il y a des personnes de leur communauté, je dirais, ou avec lesquelles elles peuvent avoir des affinités. Et donc, même s'il y a une extension de la présence de l'immigration sur tout le territoire, il y a presque une meilleure répartition, on peut dire. Il y a des OQTF qui sont prises dans tous les territoires.
Il faut revenir, évidemment, sur l'actualité de nos relations houleuses avec l'Algérie. Bruno Retailleau parle d'humiliation quand Alger refuse de reprendre ses ressortissants sous OQTF. Est-ce qu'il y a de ça? Ou est-ce que c'est lui qui surdramatise à des fins politiques, peut-être politiciennes d'ailleurs?
Non, mais il y a un peu de ça, parce que, si vous voulez, les personnes qui ont été renvoyées, éloignées ces derniers temps, sont des personnes qui ont souvent des papiers d'identité algériens et qui même parfois ont eu ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires. Et on a eu encore des cas où les personnes sont amenées avec des policiers jusqu'à Alger, avec un passeport, un laissez-passer consulaire même, et puis les autorités algériennes vous disent, ben non, lui, on ne veut pas qu'il rentre, on vous oblige à le ramener en France. Alors
ce qui est quand même étrange.
Bah, c'est un peu étrange, mais c'est étrange et pas étrange quand on connaît un peu l'Algérie. Il faut se souvenir, par exemple, on a les 5 ans de la crise Covid, que pendant la période du Covid, les Algériens empêchaient leurs propres ressortissants de rentrer en Algérie. Hein, et on avait ces personnes qui attendaient dans des aéroports, alors que nous, on faisait exactement l'inverse. On allait même parfois les chercher en Amérique latine pour les ramener ici.
Mais c'est légal de faire ça ?
Du point de vue du droit algérien. Ouais.
Mais c'est du point de vue du droit algérien, il est, je dirais, calqué et héritier de pratiques qu'on a connues dans les pays staliniens. Hein, la particularité, par exemple, de l'Union soviétique, c'est que quand un dissident sortait, par exemple, pour aller prendre un prix ou avoir une invitation,
il ne pouvait pas rentrer.
Il ne pouvait pas rentrer. Voilà. Et donc, l'Algérie, c'est ça. C'est en 1973 une loi qui pénalise la sortie ou qui peut pénaliser la sortie de quelqu'un du territoire si les autorités ne lui ont pas donné l'autorisation de partir d'Algérie et des fois vous empêcher de rentrer. Voilà. L'idée qu'on n'a pas le droit de rentrer dans son pays, ça nous choque. Voilà. Et alors, quand en plus on dit aux policiers qui ont amené la personne, mais maintenant vous reprenez l'avion dans l'autre sens avec lui, ça fait un peu étrange. Ouais. Vous imaginez, nous, qu'on puisse dire au gouvernement américain qui nous renvoie un délinquant français,
on n'en veut pas,
et vous repartez, aux policiers américains, vous repartez avec le délinquant français. On aura des problèmes autrement plus graves que ceux qu'on essaie de prévoir pour l'Algérie.
Lui, il vit avec une immigrée. Un jour peut-être, si Marine Le Pen arrive à l'Élysée, il devra lui dire adieu et la raccompagner à la frontière, enfin, au tunnel du Mont-Blanc. En attendant, il croque la vie et les arancini à pleines dents. C'est vrai, hein, Quentin ?
J'irai au bout du monde.
Au bout du monde. Ah, c'est vrai, c'est une belle déclaration. Quentin, vous êtes allé parler au QTF dans la rue.
Hier soir, je sors de la maison de la radio et je fais la connaissance de Marie-Claude, qui attend son bus. Avec son foulard à motif, son trench beige, elle découvre...
Au QTF, je l'ai vu, mais comme ça, je ne sais plus.
Obligation ?
De quitter le territoire, voilà.
Voilà, ça revient, mais comme beaucoup de mes rencontres, ce n'était pas clair dans son esprit. Alors quel regard pose-t-elle sur cette abréviation qui inonde l'actualité ?
Ça dépend. Les seuls trucs qui me hérissent un peu en ce moment, c'est le problème des Algériens qui vraiment critiquent à fond tout le monde et qui ne peuvent pas être expulsés. Tant qu'il ne s'agit pas de terroristes, alors les terroristes, évidemment, moi je suis 100% pour qu'on les dégage, mais le problème des sans-papiers, c'est autre chose.
Guillaume, c'est ma deuxième rencontre, il est comédien formateur. Je lui demande s'il forme des comédiens.
Non, j'interviens en entreprise sur des sujets assez divers. Ça peut être sur la sensibilisation aux handicaps invisibles, aux risques psychosociaux, aux VSS. Et j'utilise les outils du théâtre.
Voilà, je nous ai pris un rendez-vous pour le team building Zoom Zoom Zen, à base de douce assoir en chorale, de yoga du rire et de pièces de théâtre entièrement en impro. Mathieu, vous allez adorer.
Ah, j'adore.
Je lui parle au QTF.
Après, dans les faits, c'est plus compliqué. Si vous avez une OQTF, la police va pas débarquer chez vous. Vous suivez une OQTF si vous voulez bien le suivre.
C'est de l'administration, quoi.
C'est un peu ça. C'est un petit peu à l'époque où on s'autorisait soi-même à sortir pendant le Covid. Quand on a une OQTF, on peut juste être discret, ne pas quitter le territoire, ne pas passer par les douanes et rester sur le territoire. Et en fait, on ne peut pas vraiment le faire appliquer, ou alors ce serait très très compliqué.
Impossible à maîtriser et encore plus complexe, car c'est du cas par cas.
Il y a plein de situations diverses. Il peut y avoir des erreurs administratives, il peut y avoir une personne s'est fait malheureusement renvoyer, elle n'a pas trouvé d'emploi à temps, du coup, et son visa c'est un visa de travail, du coup au QTF. C'est globalement ça. Hein. Si demain... un événement tragique arrive en France et que vous êtes obligé de quitter le territoire français, comment est-ce que vous aimeriez être accueilli ?
Voilà la question qu'il faut qu'on se pose si on doit changer de prisme. Ce jeune a mis son tour de cou jusqu'au milieu de son visage pour se protéger du froid. Il roule à vélo avec un sac violet derrière lui. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Fakoli.
Est-ce qu'on peut enlever le petit foulard, là ? Je vais mieux vous entendre.
Là, c'est bon.
Vous avez quel âge, vous ?
J'ai 22 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Ben, je suis livreur.
Ça se passe ?
Ouais, très bien.
Il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Après, c'est mon avis, moi, je pense qu'il y a des gens qui foutent de la merde. Donc du coup, c'est tout à fait normal qu'on les place sous OQTF. Et par contre, il y en a d'autres, je ne pense pas. Par exemple, il y a des pays qui sont en guerre. Donc du coup, la population, elle est obligée de venir en France.
Nous parlons de son histoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. À quel âge est-il arrivé en France ?
16-17. J'ai été au lycée, ça s'est bien passé, j'ai eu mon bac. Et pour ça, je suis reconnaissant pour la France.
Donc ceux qui ne respectent pas, c'est ça en gros que vous me dites ?
Ouais, exactement.
Vous comprenez qu'il y ait des OQTF, quoi.
Ouais. Et moi, je pense que la France, en général, gagnerait à faciliter un peu l'obtention du titre de séjour à des gens qui veulent travailler comme moi.
Yannick, lui, enseigne à l'université. Il passe devant moi, sa veste marron, ses cheveux poivre et sel et sa pochette plastique rouge remplie de feuilles sous le bras.
OQTF ? Oui, ça m'a l'air assez inextricable. En fait, je pense que c'est une question qui est très instrumentalisée, idéologisée et qui est assez finalement mal comprise par le grand public parce qu'on mélange, à mon sens, différentes choses. Cette question idéologisée, instrumentalisée, du coup, elle brouille les bonnes clés de compréhension.
Pour Yannick, on devrait parler d'immigration de façon concrète plutôt que de faire des OQTF un objet de débat politique.
On le sait, les patrons et les entrepreneurs le répètent à longueur de journée, il y a besoin d'une véritable immigration de travail avec une immigration peut-être mieux préparée, des personnes mieux formés, qui puissent être aussi mieux accueillis. Donc après, les OQTF, les personnes qui, bien sûr, sont dangereuses, sont sous le coup de la loi, ont commis des délits graves, etc., là, effectivement, il faut qu'il y ait une certaine fermeté. Mais je pense qu'il faut bien distinguer les niveaux, les différents aspects de la question, parce que sinon, on brouille tout, on idéologise tout, et je pense que c'est très néfaste pour le débat public, qui doit être un débat quand même assez éclairé, et là, on n'éclaire pas l'opinion.
À l'écouter, ce serait presque tomber dans la facilité que de surfer sur ces OQTF, ça sonne comme un hashtag, un mot-clé, mais est-ce que ça va régler le problème de l'immigration ? Est-ce que c'est dangereux de l'instrumentaliser ? Dans ce cas-là, disons CQFD plutôt qu'OQTF.
Le génie de cette chute, vraiment. Quentin, c'est vraiment merveilleux. Merci Quentin. Didier Leschi, est-ce que, moi j'écoute les réactions dans la rue, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai l'impression que ce terme, cette notion d'OQTF, elle est trop large. Quel rapport entre un réfugié politique, un yéménite par exemple, qui fuit son pays, et quelqu'un qui a effectivement soupçonné ou qui a commis des actes terroristes, enfin, c'est des catégories très différentes. Il devait y avoir plusieurs types d'OQTF, non ?
De toute façon, il faut toujours parler de l'immigration au pluriel. Il y a des immigrations, il y a des modes d'entrée différents sur le territoire. Il y a de l'immigration familiale, il y a des étudiants qui sont la première sur le motif d'entrée sur le territoire. Il y a la demande d'asile aussi, qui n'a jamais été aussi forte en France que ces dernières années. Et il y a beaucoup de personnes qui obtiennent des titres de séjour. Je dirais que en 15 ans, le nombre d'immigrés dans la population française, c'est-à-dire des personnes nées étrangères à l'étranger, dont certaines peuvent obtenir la nationalité française et elles l'obtiennent, a augmenté de 35%. Et en plus, il faut faire attention parce que les immigrés qui viennent de pays de l'Union européenne ne relèvent pas d'un titre de séjour. Voilà. Ceux qui relèvent d'un titre de séjour sont ceux qui viennent de pays, ce qu'on appelle des pays tiers à l'Union.
Attends, ben quand on parle d'immigration dans les médias, quand un politicien parle d'immigration, on comptabilise aussi l'immigration intra-européenne ?
Bien sûr.
Donc c'est on peut faire gonfler un petit peu.
D'abord, c'est une manière de ne pas parler de l'essentiel, c'est-à-dire le fait que globalement, on est un pays accueillant pour des personnes qui viennent en dehors de l'Union européenne. Le nombre de titres de séjour de personnes venant hors de l'Union européenne, il a augmenté de plus de 70% depuis 2007. Si vous voulez, on est à plus de 4 millions de personnes qui ont un titre de séjour, alors que c'était qu'un peu plus de 2 millions en 2007. Je dirais que c'est la même chose pour la demande d'asile. Le nombre de réfugiés en France, il a triplé un peu plus de 10 ans. Il y a aussi aujourd'hui 600 000 personnes qui ont un titre de séjour. Et donc, cela ne relève pas d'une OQTF. Ceux qui relèvent d'une obligation de quitter le territoire, ne relèvent pas de l'asile, ceux qui ne relèvent pas du travail. Il faut faire attention, il y a une immigration de travail en France. Du reste, parfois, on peut s'interroger si on ne prend pas des personnes qui pourraient être utiles dans le pays de départ. Je pense par exemple aux médecins. Oui. On dit souvent, les hôpitaux français ne pourraient pas fonctionner sans les médecins étrangers. Sans s'interroger sur ce que ça veut dire.
Ce qui se passe à l'étranger.
Oui, d'abord, on prend par exemple, on parlait de l'Algérie en début, il y a 3 fois plus de médecins en France par habitant qu'en Algérie. Et en même temps, on a des médecins algériens. Pourquoi ils partent et pourquoi ici ils obtiennent le droit de travailler et ils ne travaillent pas de manière clandestine, ils ne relèvent pas de l'OQTF. C'est parce qu'il vaut mieux travailler ici, on est mieux payé que de travailler là-bas. Et en même temps, on n'a pas payer leur formation. Et on a empêché des jeunes Français d'accéder aux études de médecine par ailleurs.
Vous dites qu'en règle générale, 94% des OQTF concernent des étrangers sans histoire. Donc en gros, c'est quoi? C'est de la paperasse? C'est la fin d'un visa de travail, d'un titre de séjour? C'est automatisé?
Qu'est-ce qui dit sans histoire?
J'ai lu, c'est vous qui le dites. Bon, vous avez dit 94% des OQTF concernent des étrangers sans histoire.
Ah non, moi je parle jamais comme ça, donc sans histoire, je sais pas ce que c'est avec histoire, sans histoire, tous les étrangers ont une histoire, et il peut y avoir une histoire migratoire.
Non, qu'on pas de problème avec la police sans histoire, je pense que c'est dans ce sens-là que vous l'avez formulé.
Mais bien évidemment, ceux qui, et heureusement, ceux qui relèvent d'une obligation de quitter le territoire ne sont pas nécessairement des délinquants, et c'est heureux si vous voulez.
Donc, mais par contre, pourquoi ils vont la recevoir alors?
Mais parce que dans un pays qui est largement ouvert à l'immigration, 366 000 nouveaux titres de séjour en 2024, eh bien, est-ce qu'on peut en même temps dire tous ceux qui viennent en dehors du droit de venir doivent rester ici? Voilà, ça peut être un point de vue. C'est-à-dire, un point de vue, il y a des gens qui considèrent que toute personne qui pose le pied sur l'Union, dans un pays de l'Union européenne ou en France a le droit de rester. Voilà. Mais ça pose des problèmes sociaux importants, si vous voulez. On ne peut pas, par exemple, penser que la question du pouvoir d'achat des gens n'est pas liée au logement. Voilà. Et comme on ne produit pas suffisamment de logements par rapport à ceux qui sont ici, quand d'autres arrivent, ça pose des problèmes.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël. Sur France Inter.
Quel immigré ne mérite pas son titre de séjour? Qui va dégager Fissa dans le premier charter? Jouons au maillon faible. Non, je déconne. Aujourd'hui, on va finalement esquiver. On va esquiver évidemment le sujet de l'immigration étrangère pour jouer avec l'immigration française. Main sur le cœur pour un quiz consacré aux destinations favorites de nos compatriotes quand ils décident d'émigrer. Et le français étant ataviquement bougon, on va d'abord démarrer avec les pays qui ne lui plaisent pas. Ainsi, sur les 176 pays qu'a visité Pierre Courade, le seul journaliste en CDDU à avoir une empreinte carbone digne de Cristiano Ronaldo, seuls 3 trouvent grâce à ses yeux, l'Italie, l'Argentine et l'Italie. Ailleurs, il ne se verrait pas vivre. D'après vous, Manon, Quentin, quelle est donc la zone du globe la moins courue des Français qui s'installent à l'étranger? L'Afrique subsaharienne? L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient? Ou l'Asie-Océanie?
C'est C.
Non. C'est C?
Non. B?
C, je pense que c'est géographiquement, c'est plus loin.
Le Moyen-Orient? Ah, évidemment, c'est une bonne réponse de Manon Mariani. Oui, l'Asie-Océanie, c'est pourtant la douceur de vivre balinaise, la nature inviolée de Bornéo, les plages de Thaïlande, où l'on peut croiser certainement quelques enfants illégitimes de Cyril Lacarrière, mes erreurs de full moon party, comme ils les appellent. Mais non, référence en matière de bon goût, le français préfère Dubaï. Et justement, d'après vous, quelle est la destination favorite des pionniers français? Le Portugal? Le Canada? Ou l'Espagne?
B.
C. Ça, c'est peut-être juste pour Manon.
Il y a un piège.
Les trois?
Et non, aucun des trois. Oh, j'adore ce piège. La destination préférée des expats français est évidemment, vous auriez dû le deviner sans QCM, la Suisse, avec 170 000 ressortissants. Et encore, quand la Russie aura officiellement déclaré la guerre à la France, ce chiffre va exploser et vous serez des millions à tenter de me rejoindre. Hélas, il n'y aura pas de place pour tout le monde dans l'abri anti-atomique. Il faut déjà que je case ma mère, mes gosses, ma femme et Shlomo, car elle ne veut pas partir sans lui. Bref, 170 000... Ah oui, ça vous prenez pas beaucoup de place. 170 000 Français en Suisse, je précise pour les puristes que ça représente les Français recensés officiellement en 2023, alors que leur nombre est estimé à plus de 2,5 millions. Toujours selon ce recensement officiel, quel est le pays le moins prisé des Français tentés par l'expatriation? Trinité et Tobago? Le Yémen? Ou l'Irak?
B.
Oh, C.
C'est vrai, c'est peut-être C. Ouais.
Non, c'est tentant, C.
B, B.
Irak, c'est les Américains.
Et vous, vous dites?
Yémen.
Vous dites le Yémen? Yémen. Hey, réponse B, oui. Étonnamment, alors que c'est très sympa, le Yémen, ses dunes, ses oasis idylliques, sa guerre civile aussi, c'est vrai, est le pays où l'on trouve le moins de Français. On dit souvent que le problème de la vie d'expat, c'est qu'au bout d'un an, tu connais tous les Français du pays. Là, c'est au bout de 2 jours que ce phénomène intervient, puisqu'à l'heure où on se parle, il n'y a que 10 Français au Yémen. Ah, 8 maintenant.
Oh,
foutue frappe américaine. Et justement, sans rancune, direction les États-Unis. Patrie d'adoption de Cyril Lacarrière qui, intégrant le corps prestigieux des agents de paix du FBI, a obtenu la double nationalité et donc un passeport américain impossible à confondre avec le passeport français. Pour quelle raison on ne peut pas confondre un passeport américain et un passeport français? Parce que le passeport américain, il joue l'hymne américain quand on l'ouvre? Parce qu'il y a une image animée d'Abraham Lincoln quand on tourne très très vite les pages?
ou parce qu'il est bleu et non Bordeaux?
BC.
C'est.
BC. Abraham Lincoln.
Il y a un
petit dessin animé avec Abraham Lincoln, très bien.
Mais si, j'imagine un petit jeu.
C'est
quoi.
Une bonne idée.
C'est une bonne idée, mais malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Bonne réponse de Quentin, réponse C. Il est bleu, le passeport américain. Mais maintenant, c'est bien, vous avez jamais daté d'américain?
Non.
C'est pour ça que j'ai mis la musique bleue, comme c'est bleu, blue.
Ah oui, oh, vous êtes obligé de.
Ça va,
vous allez expliquer tous les extraits.
Oui, oui, bah parce que là, je me suis dit quand même que ça serait un peu bizarre.
C'est,
les gens,
c'est notre génération, voilà, maintenant.
Tous ceux qui ne sont pas vraiment mélomanes ne connaissaient pas peut-être blue. Mais puisque nous parlons de passeport, savez-vous quelle est la particularité du passeport finlandais, les amis? Sa couverture est en peau de saumon. Il y a un portrait du Père Noël en filigrane.
Les clichés.
Non, mais... Ou quand on fait défiler les pages, on voit un élan qui court. Hein, on fait défiler les pages.
B hein? Non mais non, c'est pas le Père Noël.
Moi, je vais mettre le A, moi. Je vais mettre le...
En peau de saumon.
En peau de saumon.
Oui, et puis c'est pratique.
Non mais peut-être juste un petit élément.
Pour la conservation. Très bien. Et vous, vous dites
Manon? B.
Oui, et bien c'était la réponse.
Non,
c'est fini. Mais oui, Manon.
J'en étais sûre, Manon,
c'est ton erreur. Vous l'aviez tout à l'heure. Alors... C'est un flipbook dans le passeport finlandais. Le petit élan, il court si on tourne les pages. Enfin, flipbook, c'est le nom anglais. Car bien évidemment, vous savez qu'en français, ça se dit folioscope, pagoscope ou caliscope.
C.
Ah, c'est C, mince. Non, c'est A.
Mais oui, c'est A, bonne réponse de Manon à qui on n'a pas du tout soufflé.
Ah non, personne.
Dans la case, pas du tout. Elle j'ai vu votre regard s'illuminer. Un folioscope, c'est fou. Je crois qu'on a débloqué le dernier niveau du gai savoir avec cette question. Et pour terminer, revenons au fameux
Gérald
exode.
Gérald Darmon était inspiré.
Oui, il était très inspiré, ou alors il était passé à la colline du crack, je ne sais pas. Revenons au fameux exode américain de Cyril Lacarrière. Une histoire de famille, puisque son ancêtre, Gonzague de Lacarrière, fuyant la France pour une vague histoire de particules un peu encombrantes, devint citoyen américain en 1790 grâce au Naturalization Act qui prévoit quoi? Que tout étranger peut devenir citoyen des États-Unis, que tout étranger libre peut devenir citoyen des États-Unis, ou que tout étranger libre et blanc peut devenir citoyen des États-Unis.
B.
C.
C'est la triste réalité historique. Manon, bonne réponse, ouais. Effectivement. On vous a trop rapidement jugé, Cyril, avec votre casquette MAGA et votre t-shirt Keep Calm and Love Trump. Ce bon vieux Donald ne fait que revenir finalement aux sources des pères fondateurs. Mmh. Effectivement, tout étranger libre et blanc peut devenir citoyen des États-Unis. Ça, c'était le Naturalization Act. Vive l'émigration française dans le monde et victoire triomphale de Manon Mariani.
Franchement, je suis étonné moi-même.
Ouais, moi aussi.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas qui fait les comptes encore, c'était... C'est pas grave.
Bah, il y a 3-2, on souffle à l'oreiller.
Oui. On vous souffle encore, visiblement. Même le résultat.
Très bien, ça suffit. Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est avec nous cet après-midi. Alors, justement, Didier, en quoi consiste votre métier? Qu'est-ce que vous faites à l'Office français de l'immigration et de l'intégration?
Ah ben, on accompagne les personnes qui arrivent avec un droit au séjour. Dans ce qu'on appelle l'intégration, mais l'intégration c'est un chemin, ça ne se fait pas, ça se décrète pas du jour au lendemain. Donc, ce sont des cours de français. Mmh. Voilà, 13 millions d'heures de cours l'année dernière. C'est la présentation de la société française, un peu des cours, je dirais, d'instruction civique.
Présentation de l'administration française et ses subtilités, peut-être pour,
Bien sûr, enfin, de la géographie, qui n'est pas simple, enfin, qui n'est pas toujours très simple. Voilà, comment ça marche, comment on peut essayer d'accéder au marché du travail, qu'est-ce que c'est que France Travail, des choses comme ça. Et puis, il y a une deuxième partie qui est l'accueil des demandeurs d'asile.
Ah, ceux qui ne l'ont pas encore.
Ceux qui ne l'ont pas encore, puisque c'est l'Office français de l'immigration qui verse l'allocation pour demandeurs d'asile et qui les héberge. On est une sorte de grand hôtelier, on gère un parc de 120 000 places dans lequel il y a des gens qui rentrent et qui sortent en fonction de l'état de leur démarche du point de vue de leur demande d'asile. Voilà, c'est ça qu'on organise. Il y a d'autres choses, on fait aussi du médical, on regarde un peu la situation des personnes. Quand les personnes, par exemple, veulent demander ce qu'on appelle un titre de séjour pour soins, c'est une particularité française, eh bien, il y a des médecins de l'OFI qui regardent leur dossier, puis qui disent, bah oui, vous relevez bien de la possibilité de rester en France pour vous faire soigner. C'est une particularité qui n'existe pas beaucoup à travers le monde.
Manon. Pour revenir aux OQTF, on a beaucoup parlé de l'Algérie. Est-ce qu'il y a qu'avec l'Algérie que ça bloque?
Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'avec l'Algérie que ça bloque. Ça serait fou de le dire. Mais ça bloque en particulier avec des pays, paradoxalement, avec lesquels on donne beaucoup de visas. C'est les pays du Maghreb, c'est les pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est dommage parce que si on veut garder l'idée de la fluidité, d'une migration circulaire, eh bien, il faut que ceux qui ne jouent pas le jeu... puissent être renvoyés. Et la particularité de l'Europe, je dirais pas simplement de la France, de l'Union européenne, c'est que traverser la frontière, eh bien, c'est prendre des risques qui sont somme toute assez limités, je veux dire, même milités, puisqu'on peut avoir accès à des associations qui vous défendent. Ouais. C'est pas la même chose traverser la frontière chinoise, si vous voulez.
Il y a des associations, mais comment on se défend quand on est, quand on reçoit une OQTF à son domicile? Est-ce qu'on peut contacter un avocat? Est-ce qu'on peut peut se défendre?
Alors, on n'en a pas les moyens en plus.
Eh bien, c'est payé par l'État.
Ah oui.
C'est l'aide juridictionnelle. Oui. Toute personne et toute personne en situation de séjour irrégulier a droit à l'assistance d'un avocat payé par l'État. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Elle aura le droit aussi, dans un centre de rétention, à pouvoir consulter un médecin qui va vérifier si vous pouvez effectivement repartir ou pas, si vous êtes apte aux conditions de voyage. On est quand même une zone du monde, et en particulier la France ou les pays de l'Ouest, où les garanties humaines sont très fortes.
L'OFI, elle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur?
Oui.
C'est quoi vos rapports avec Bruno Retailleau? Vous lui parlez?
Oui, bien sûr, je lui parle.
Qu'est-ce que vous lui dites?
Je lui parle autant qu'il me parle, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire que je réponds aux questions qu'il me pose.
Mais quelles questions il vous pose, par exemple?
Par exemple, des questions techniques, ou des questions, voilà, combien de personnes vous avez reçues, qu'est-ce qui se passe si il y avait telle évolution législative. Voilà, et Bruno Retailleau est quelqu'un qui est plutôt agréable dans le rapport humain, et donc vous remercie, et c'est toujours... agréable pour un fonctionnaire d'être reconnu dans ses compétences professionnelles.
Là, il a mis sa démission dans la balance, quand même. Est-ce que vous pensez qu'il est... Il va aller jusqu'au bout de cette démarche-là?
Alors, il met sa démission dans la balance s'il n'est pas soutenu par le gouvernement. C'est ce que j'ai entendu Voilà. Mais je ne crois pas que, malheureusement...
Sur l'Algérie, il a raison, quoi. En gros, ce que vous nous dites, vous, c'est que, quelque part, sur l'Algérie, Retailleau a raison d'aller jusqu'au bout de cette démarche offensive contre l'Algérie.
La difficulté pour nous, c'est l'histoire qui nous lie à l'Algérie, mais surtout le fait que, depuis 1962, la dynamique interne de l'Algérie, c'est celle d'un État autoritaire. Et on a même oublié que c'est un pays qui a poursuivi ses dissidents qui viennent en France, puisque la France est le pays d'accueil de la dissidence algérienne depuis très longtemps, et même pour certains d'entre eux ont été assassinés en France. Je pense par exemple à Maître Missili, assassiné sur le boulevard Saint-Michel en 1987, mais il y a un autre personnage célèbre qui est le signataire des accords d'Évian, qui s'appelait Krim Belkacem, qui a été assassiné en 1970, pas en France mais en Allemagne, mais c'est ça malheureusement la situation. Et je dois avouer que c'est triste dès lors qu'on a été, moi historiquement, ceux qui ont beaucoup espéré dans les indépendances en espérant que ça allait construire des sociétés meilleures.
Vous écoutez
France
Inter ?
Mais aucun Français ne veut traverser la Méditerranée à partir de l'Espagne pour rejoindre l'Algérie.
Ah, c'est sûr, dans ce sens-là, c'est sûr. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Manon, la personne à suivre.
Je vous présente Abou Sangaré. Il a 23 ans, il est guinéen et il vient d'être récompensé d'un César.
Le César de la révélation masculine est attribué à Abou Sangaré.
Abou Sangaré, la star du film L'histoire de Souleymane, sorti l'année dernière, réalisé par Boris Lochkin. Film qui a été récompensé du prix du jury de la section Un certain regard au Festival de Cannes. Il raconte l'histoire d'un jeune guinéen, livreur à vélo, qui doit jongler entre son travail, trouver un endroit où dormir et surtout son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour sa demande d'asile. Le film est réalisé comme un documentaire abrupt, sans musique, sans effet. On passe 48 heures collé à Souleymane dans un Paris assez sombre, pas très accueillant, très éloigné du Paris d'Emily in Paris, par exemple. Une immersion dans le milieu des livreurs, la plupart en situation irrégulière, qui montre un quotidien difficile, souvent invisible aux yeux des gens. Le réalisateur Boris Lochkin voulait absolument un acteur non professionnel pour ce rôle. Il s'est rendu à Amiens pour passer des castings et c'est là où il a été ébloui par Abou Sangaré. Et pour écrire l'histoire de Souleymane, il s'est directement inspiré de celle de son acteur. Abou Sangaré est arrivé à Paris à l'âge de 16 ans en mai 2017. Emmanuel Macron a été élu président, mais c'est loin d'être la préoccupation d'Abou Sangaré, qui est parti de sa Guinée natale pour rejoindre la France et envoyer de l'argent à sa mère pour arriver ici. Il a traversé le Mali, l'Algérie, la Libye, puis la Méditerranée avant d'arriver en Italie et finalement en France. Très vite, Abou Sangaré quitte Paris, prend le premier train, part pour Amiens. Là-bas, grâce à des associations d'aide aux migrants, il obtient un baccalauréat professionnel, maintenance des véhicules de transport routier, puis un BTS. Mais malgré son intégration et ses qualifications, ses premières demandes de régularisation ont été rejetées. C'est comme ça qu'Abou Sangaré finit par être placé sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. En tout, il a fait face à 3 refus de régularisation, mais grâce à la médiatisation et à son parcours exemplaire, la préfecture de la Somme a réexaminé sa situation. Le 8 janvier 2025, Abou Sangaré obtient un titre de séjour salarié d'un an grâce à une promesse d'embauche en tant que mécanicien. Pour lui, c'est une libération, je le cite. Cela va me permettre maintenant de marcher dans la rue sans avoir peur d'être arrêté, sans avoir peur d'un contrôle d'identité. C'est pour ça que je respire mieux.
Merci beaucoup Manon pour ce coup de projecteur sur cet acteur formidable.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Difficile, quand on le voit comme ça, si bien mis, si propret, d'imaginer qu'il fait partie de ces gens qui achètent leurs sous-vêtements d'occasion. Alors certes, c'est la crise,
c'est pas moi, hein.
Et nul n'y échappe, mais tout de même, acheter ses caleçons sur le bon coin, au risque de se retrouver confronté à des annonces très borderline, mettant des en scène des vendeurs visiblement très excités de vendre leurs caleçons, quelle déchéance pour celui qui avait pourtant été élu cierge d'or chez les frères Maristes. Pierre Courade, mon vieux, ressaisissez-vous et résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur les OQTF en une minute chrono.
Et Mathieu, dans OQTF, il y a... TF, évidemment. C'était notre sujet du jour, les OQTF. Didier Lesky, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, nous a tout expliqué sur ces obligations de quitter le territoire français qui font tant polémique. Polémique sur le nombre effectif de retours aux frontières, hein. 140 000 OQTF prononcés pour entre 20 et 24 000 expulsions effectives. Polémique aussi depuis que Bruno Retailleau en a fait un sujet de pression sur l'Algérie. À ce sujet, Didier Lesky nous a expliqué qu'Alger refusait même des ressortissants totalement en règle. Bon, Didier Lesky nous a surtout rappelé à quoi servaient les OQTF, hein. Elles sont déjà ordonnées par les préfets envers les personnes en situation irrégulière, sans titre de séjour ou déboutées d'une demande d'asile. Les personnes soumises à une OQTF sont invitées à quitter le territoire. Elles ont 30 jours pour se mettre en conformité. Il existe même des aides financières au retour. Si la personne reste quand même sur le territoire, au moindre contrôle de police, elle peut être emmenée en centre de rétention administrative. Enfin, une OQTF est valable 3 ans. Didier Lesky nous a expliqué aussi qu'être en situation irrégulière n'est pas un délit en soi. Les textes actuels sur les OQTF privilégient les personnes qui ont rompu les règles de l'hospitalité, un acte de délinquance par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, l'immigration reste en général un sujet glissant en France, c'est pour ça qu'on a pris les skis.
Oh,
c'est bien, c'est bien.
Je ne savais pas la pire chute de l'histoire de Zoom Zoom Zen. Non. C'était merveilleux, non. Pierre. Et pas d'erreur pour le coup.
Non, pas d'erreur.
Contrairement à Quentin.
Oui.
Pierre. Si son arrière-grand-père avait fait l'objet, lui, d'une OQTF, elle ne serait pas avec nous aujourd'hui, mais bien au fin fond des Pouilles, en train de traire des bufflones. Imaginez le gâchis d'une France dépourvue de sa beauté, de son talent, de sa modestie, surtout. Une dystopie cauchemardesque qui donne envie d'ouvrir grand les frontières. Bonjour, Camille Lorente.
Ouais, bonjour. Allez, OQTF, super. Sujet, let's go! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Merci de me confier des dossiers faciles dans des contextes détendus, c'est un plaisir. J'ai demandé à ChatGPT ce matin là, de faire des acronymes marrants avec OQTF. Je vous partage seulement la plus drôle. OQTF, olive qui tombe en fête. Je cite, une olive espiègle qui roule partout lors des apéritifs. Waouh, super gaulerie! 100% déconne. Bon, j'aurais pu m'arrêter là puisque visiblement le grand remplacement des humoristes par l'IA, c'est pas pour tout de suite. Puis je me suis dit que peut-être ma requête n'était pas assez spécifique. ChatGPT, fais-moi d'autres jeux de mots, mais qui ont un rapport avec l'immigration, le racisme, la colonisation. Il me répond quoi ? Aborder ces sujets sensibles requiert une grande délicatesse. Sans déconner ! Et il ne l'a pas fait ! Il ne m'a pas sorti les jeux de mots, non ! Même l'IA ne veut pas faire mon taf ! Non ! Ne virez pas tous les sans-papes, hein. Bientôt va en falloir des gens qui n'ont plus rien à perdre pour écrire des chroniques. Alors Didier Lesky, j'ai lu votre livre, non, la première page de votre livre, super intéressante. Vous citez Oscar Wilde, « La souffrance attire plus aisément la sympathie que la réflexion, une manière polie de dire « Allez les gauchos, on utilise son petit cerveau !» parce que c'est gentil d'être gentil, mais on voit bien qu'il n'y a plus assez de coquillettes pour tout le monde, là. Ça m'a fait réfléchir, c'est vrai, quoi. Si c'est déjà la merda chez nous, on va pas inviter du monde, quoi. Je me suis dit, ma vieille, voilà, mais finalement, t'es d'accord, faut contrôler l'immigration, quoi. C'est peut-être ça, la maturité. Enfin, puis tout à coup, je me suis souvenu que j'étais une maxi-gauchiasse. Ah putain, mais vous avez failli m'avoir, Didier. Oui, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Ah bon, bah vous avez visiblement jamais entendu parler de ma vie amoureuse. Ah, moi, je l'accueille, la misère. Avec ou sans dents, je peux te dire que... Ah, y a un paquet de galériens qui a planté sa tente dans mon cœur pour pas... On... Si à moi toute seule, je peux gérer 5 semi-SDF par an, je pense qu'à l'échelle d'une nation... Ce qui est vraiment génial quand on parle d'immigration en France, c'est que tout à coup, on adore nos pauvres. Ah, nos petits pauvres, bien de chez nous, là. Nous, la galère, on l'aime local, cultivé pas loin, avec de l'engrais BFM pour ajouter de la colère à la misère, là, ça donne du goût. 9 millions de personnes, hein, sous le seuil de pauvreté monétaire en France, qu'est-ce qui est prévu pour elles? Mais rien, vous êtes fous, quoi! Faut surtout pas que le chiffre baisse, sinon il nous reste quoi comme excuse pour fermer les frontières? Dire qu'on n'aime pas les étrangers? Je crois pas, non. C'est ça le plus fou en France, c'est d'avoir un débat sur l'immigration en faisant comme si le racisme et la xénophobie n'existaient pas dans ce pays. Alors qu'on les a inventés, cocorico. Moi, j'aimerais des grands Suédois menottés qui doivent se baisser pour monter dans le charter comme ça. Actadit uvit, ça veut dire attention à la tête. Putain, mais la violence de notre politique anti-immigration, là, cette nuit, 450 mineurs isolés, expulsés de la gaieté lyrique, gazés, nassés, matraqués. On en vient à regretter Sarko qui paraphrasait « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », là. Au moins, il y avait une alternative qui était proposée, quoi. T'es, attendez, me vire pas, je vais le bouffer, votre saucisson, voilà. Et avec la peau, et en chantant la Marseillaise. Alors, moi, j'ai peut-être pas la solution à tout ça, hein, mais je vous rappelle qu'il y en a certains qui se font pas prier pour quitter le territoire. Qui ça, les évadés fiscaux et... Oui, nous les maxi-gauchias, on l'a vu le reportage d'Arte, on le connaît le chiffre, 80 milliards d'euros par an, l'évasion fiscale par an, hein, ça en fait de la brioche pour nos pauvres. Oh là là, la souffrance attire plus aisément la sympathie que la réflexion, bah oui, mais si seulement on pouvait être sympa tout en réfléchissant, ah, si seulement, mais que voulez-vous, mais nous on aime rêver, nous les maxi-gauchias.
Merci Camille Lorente, ne me regardez pas comme ça pour les évasions fiscaux, je suis toujours là, je suis le seul mec qui est parti de la Suisse pour aller vers la France, alors vous pouvez me dire merci. Merci Camille Lorente.
Merci, c'est bien
de dire à sa place. Votre spectacle sacré, dernière date pour ce spectacle. Ensuite,
au sacré, exactement.
Au sacré, oui, c'est au sacré, c'est l'endroit où ça se joue, exactement. Et ensuite, bientôt, ça se jouera un peu partout dans toute la France. Vous partez en tournée. Merci beaucoup Didier Lesky d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et vous nous avez expliqué les OQTF. Zoom Zoom Zen.